Lizzie présente L'étranger dans la maison de Shari Lapena, lu par Odile Cohen. Prologue. Partir d'ici. Vite. Elle sort en courant par l'arrière du restaurant abandonné, le souffle rauque, en trébuchant dans le noir car la plupart des ampoules sont grillées ou cassées. Elle court, tel un animal affolé, jusqu'à sa voiture, à peine consciente de ce qu'elle vient de faire. Elle parvient à ouvrir la portière, boucle sa ceinture machinalement, enclenche la marche arrière, fait demi-tour dans un crissement de pneus, sort du parking et s'engage sur la route sans même ralentir. Quelque chose accroche son regard dans une vitrine du centre commercial en face. Elle n'a pas le temps de comprendre ce qu'elle voit, elle est déjà au carrefour. Elle grille le feu rouge et accélère, incapable de réfléchir. Une autre intersection, elle fonce. Elle est bien au-dessus de la limite de vitesse, peu importe. Elle doit fuir. Encore un feu rouge. Des voitures sont engagées dans le carrefour, elle ne s'arrête pas, traverse en donnant un coup de volant pour éviter la collision, semant le chaos sur son passage. Les freins crissent et les klaxons retentissent. À tout moment, elle pourrait perdre le contrôle de son véhicule, et voilà qu'elle le perd pour de bon. Dans un éclair de lucidité incrédule, elle écrase la pédale du frein, mais la voiture, partie en dérapage, monte sur le trottoir et s'écrase contre un poteau électrique. Chapitre 1. Par cette chaude soirée d'août, Tom Krupp gare sa voiture, une Lexus en leasing, devant sa belle et grande maison à double garage, avec sa pelouse généreuse et ses arbres vénérables. À droite de l'allée d'accès, un chemin d'allée rejoint le perron dont les marches mènent à une porte en chêne massif, au centre de la façade. À droite de cette porte, une large fenêtre panoramique éclaire le salon. La maison est située dans une impasse en courbe. Les demeures des alentours sont toutes plus belles les unes que les autres. Les habitants sont des gens qui ont réussi. Tout le monde ici se sent un peu supérieur. Principalement peuplé de jeunes actifs, ce quartier résidentiel du nord de l'État de New York paraît aveugle et sourd aux problèmes de la grande ville et à ceux du monde en général, comme si le rêve américain se perpétuait ici, lisse, imperturbable. Pourtant, ce cadre enchanteur ne reflète pas l'état d'esprit de Tom. Il éteint ses phares, coupe le moteur et reste un instant assis dans le noir, mal à l'aise, plein de mépris pour lui-même. Soudain, il sursaute. La voiture de sa femme n'est pas garée à sa place habituelle devant la maison. Il consulte sa montre, 21h20. Il se demande s'il a oublié quelque chose. Avait-elle l'intention de sortir ? Il ne s'en souvient pas, mais il est tellement débordé ces derniers temps. Peut-être qu'elle a fait un saut à la supérette et qu'elle va rentrer d'une minute à l'autre. Les lumières qu'elle a laissées allumées nimbent la maison d'une atmosphère douce, accueillante. Il descend de sa voiture en ravalant sa déception, lui qui se faisait une joie de voir sa femme. La nuit embaume l'herbe fraîchement tondue. Il reste sur place un instant, la main posée sur le toit de la voiture, à regarder de l'autre côté de la rue. Puis il prend sa mallette et sa veste sur le siège passager et claque la portière d'un geste là. Il remonte l'allée, gravit le perron, ouvre la porte. Quelque chose ne va pas. Il retient son souffle. Tom reste parfaitement immobile sur le seuil, les doigts encore agrippés à la poignée de la porte. Il met quelques secondes à comprendre son malaise. La porte n'était pas verrouillée. En soi, cela n'a rien d'insolite. Presque tous les soirs, en rentrant, il ouvre sans sa clé, car presque tous les soirs, Karen est là à l'attendre. Sauf que cette fois-ci, Elle est sortie en voiture et a oublié de fermer. Pourtant, Karen est obsessionnelle sur le sujet. Il souffle lentement. Peut-être qu'elle était pressée et qu'elle a oublié. Il embrasse rapidement le salon du regard, un rectangle de sérénité dans les tons gris pâle et blanc. Le silence règne. La maison est déserte, c'est évident. Karen a laissé les lumières allumées, c'est donc qu'elle n'est sortie qu'un instant. Elle a dû aller acheter du lait. Elle lui a sûrement laissé un mot. Il jette ses clés sur la petite table de l'entrée et se dirige vers la cuisine au fond. Il meurt de faim. A-t-elle mangé sans l'attendre? La réponse est non. Karen a commencé à préparer le dîner. Une salade est presque terminée. Elle s'est arrêtée alors qu'elle tranchait une tomate. Il observe la planche en bois, la tomate et le couteau pointu à côté. Il y a des pâtes sur le plan de travail en granit, prêtes à l'usage, et une grande casserole d'eau sur la gazinière en acier brossé. Celle-ci est éteinte et l'eau est froide. Il y plonge le doigt pour vérifier. Il cherche un mot sur la porte du frigo. Rien n'est écrit sur le tableau blanc. Il se rembrunit. Consulte son téléphone pour voir s'il n'aurait pas raté un message. Rien. Il est légèrement contrarié maintenant. Elle aurait pu le prévenir. Tom ouvre le réfrigérateur et reste planté là une minute à regarder son contenu sans le voir. Puis, il s'empare d'une bière d'importation et décide de lancer la cuisson des pâtes. Il est convaincu qu'elle va rentrer d'une minute à l'autre. Il inspecte la cuisine pour voir quels ingrédients pourraient manquer. Il y a du lait, du pain, de la sauce pour les pâtes, du vin, du parmesan. Même constat aux toilettes. Ils ont des réserves de papier hygiénique. Qu'est-ce qui aurait bien pu justifier ce départ en urgence? En attendant que l'eau bouille, il l'appelle sur son portable. En vain. Un quart d'heure plus tard, le dîner est prêt. Karen n'est toujours pas là. Il laisse les pâtes dans la passoire, coupe le gaz sous la sauce et se dirige avec impatience vers le salon, sa faim oubliée. Par la large fenêtre, il regarde la pelouse et la rue. Où peut-elle bien être? L'angoisse commence à monter en lui. Il compose une nouvelle fois le numéro, entend alors une vibration dans son dos. Tournant la tête, il aperçoit le téléphone de sa femme qui vibre contre le dossier du canapé. Merde, elle l'a oublié. Comment la joindre maintenant? Il se met à chercher des indices. À l'étage, dans leur chambre, le sac à main de Karen trône sur la table de chevet. Il l'ouvre avec des gestes maladroits, traversé par un vague sentiment de culpabilité. C'est mal de fouiller, certes, mais il y a urgence. Il déverse le contenu du sac sur le lit soigneusement fait et en dresse l'inventaire. Portefeuille, porte-monnaie, rouge à lèvres, un stylo, des mouchoirs en papier, rien ne manque. Donc elle n'est pas sortie faire une course. Elle est peut-être allée aider une amie. Elle aurait reçu un appel pressant. Tout de même, elle aurait pris son sac. Et n'aurait-elle pas appelé Tom à l'heure qu'il est? Il y a toujours moyen d'emprunter un téléphone. Karen n'est pas du genre tête en l'air. Il s'assoit au bord du lit, saisi d'une panique muette. Son cœur bat trop vite. Ça ne tourne pas rond, cette histoire. Il se demande s'il faut qu'il appelle la police. Il imagine la conversation. « Ma femme est sortie et je ne sais pas où elle est. Elle est partie sans son sac ni son téléphone. Elle a oublié de fermer à clé. Elle n'est pas comme ça d'habitude. » On ne le prendrait sûrement pas au sérieux. Après une si brève absence, il n'a constaté aucune trace de lutte. Rien n'a été dérangé. Subitement, il se lève et se livre à une inspection rapide de la maison entière. Il ne découvre rien d'inquiétant. Pas de téléphone fixe décroché, pas de carreau cassé, pas de tache de sang par terre. Pourtant, il a du mal à respirer. Il hésite. Même s'il leur dit que son couple frise la perfection, les flics croiront à une dispute. Il se hâte de regagner la cuisine, où Karen range son répertoire téléphonique et entreprend d'appeler ses amis, un par un.